Chapitre 9. Le vicomte resta quelque temps en contemplation devant Clémence. Sur sa noble physionomie, on pouvait voir l'expression d'une profonde pitié. Clémence était trop absorbée pour s'en apercevoir. « Pauvre femme » murmura-t-il enfin. Ces mots tirèrent Clémence de sa rêverie et, avec un doux sourire, qu'elle cherchait à rendre gaie, mais à travers lequel un observateur comme le vicomte voyait des larmes, malgré les efforts qu'elle faisait pour les cacher. « Pourquoi cette expression de pitié ? » dit-elle. « Je m'attendris sur les chagrins que vous vous préparez pour l'avenir. »« Moi ? Et comment ? » ?»« En aimant l'homme le moins capable de vous aimer, de vous apprécier. Et en vous parlant ainsi, croyez bien que mes paroles ne sont dictées ni par l'amour-propre, ni par la jalousie. »« Monsieur le vicomte ! » répliqua Clémence d'un ton digne. « Pardonnez-moi, madame, d'oser jeter un regard scrutateur dans votre cœur ouvert comme la corolle d'un blanc lys, et ne voyez dans mes paroles que l'expression du profond intérêt que je vous porte et d'un sentiment si pur qu'elle ne saurait offenser la délicatesse la plus susceptible. Ce que j'avais prévu est arrivé. Cet homme froid et blasé, ce sceptique égoïste, vous l'aimez, il a su s'emparer de votre cœur. Comment ? Dieu seul peut le savoir. » « Monsieur le vicomte, les droits que vous invoquez ne me paraissent pas suffisants pour vous autoriser à scruter mes sentiments secrets, et encore moins à vous ériger en censeur de mes actions. »« De grâce, madame, s'écria le vicomte, ne prenez pas avec moi ce ton de cruelle sévérité. Vous n'ignorez pas mon amour et j'ai besoin de vous parler à cœur ouvert. Le moment est solennel et va décider de mon sort. Je vais partir et j'ai voulu vous voir encore une fois avant de dire un éternel adieu au bonheur. » Clémence, profondément émue, garda le silence. « Cet homme, poursuivit le vicomte, m'a dérobé, sans savoir l'apprécier, un trésor qui eût fait de la terre un paradis pour moi. Je sentais dans mon cœur tous les éléments propres à vous rendre la plus heureuse des femmes, et ce bonheur, ni Sir Georges, ni les hommes qui lui ressemblent, ne pourront vous le procurer. » Unir votre existence à la sienne, c'est unir la vie à la mort. C'est vous préparer un avenir de chagrins et de larmes. Mais, répliqua Clémence fort émue, bien qu'elle essayât de sourire, ne voyez-vous donc pas que vous combattez une chimère? N'avez-vous pas entendu Sir Georges me faire ses adieux en partant? Il reviendra, répondit amèrement le vicomte. Croyez-vous donc que je le rappellerai? Dit Clémence qui, par cette seule exclamation, se serait trahie si le vicomte eût pu conserver quelque doute. Non, madame, non, je ne crois pas qu'il y ait une femme capable de rappeler l'homme qui l'abandonne sans motif. Mais Sir Georges, pour revenir, si tant est qu'il parte, ne manquera pas de prétexte. Mon départ même lui en fournira un. Quoi ? Vous partez aussi ? Malgré l'expression de regret avec laquelle Clémence prononça ces paroles, néanmoins, dans ses yeux, brilla comme un éclair de satisfaction. « Oui, madame, mon sort est décidé, répondit de Briand. Vouloir lutter contre le destin serait le rendre plus cruel. Je pars pour l'Amérique, puisque l'Europe abâtardie s'enfonce chaque jour plus profondément dans l'ornière. Vous apprendrez bientôt ma mort et personne ne pleurera sur ma tombe. Ma pauvre mère est morte en me donnant le jour, mon père bien-aimé est tombé sous une balle révolutionnaire, mon frère sous le poignard d'un assassin. Ô Clémence, vous, le seul amour que j'emporterai dans la tombe, donnez une larme à ma mémoire. » Le vicomte ne put continuer et cacha son visage dans ses mains. « Ô monsieur, dit Clémence, il a les yeux baignés de larmes, comme vous me faites souffrir! Et pourquoi m'avez-vous aimé ? Vous avez bien raison de le dire, Clémence. Pourquoi vous ai-je aimée ? Mais aussi, pourquoi vous ai-je connue ? Vous connaître, n'était-ce pas vous aimer ? Mon amour est né malgré moi sans espoir. Il est né de vous-même comme le jour naît de la lumière et du soleil. Je vous ai aimée, Clémence, parce que j'ai trouvé, réunis en vous, tous les charmes, toutes les vertus, toutes les beautés de la femme. Je vous ai aimé parce que de cette réunion émane, comme un parfum de fleurs, une odeur de bonheur et de jouissance. Je vous ai aimé enfin, comme un rêve enchanteur trop tôt évanoui. » « Je ne puis que vous plaindre, vicomte, et vos paroles m'affligent profondément. »« Je vous crois, madame, » répliqua de Briand en secouant tristement la tête, « car vous n'êtes pas de ces femmes qui aiment à voir souffrir les hommes. Tout en vous, Clémence, est noble et sincère. Vous êtes une âme d'élite, un être privilégié que je vénérerai toujours, si je n'ai pu m'en faire aimer. » Après ces paroles, M. de Briand se leva, s'approcha de Clémence, prit sa main qu'il baisa respectueusement et sortit en disant d'une voix émue « Adieu !» Ce départ jeta Clémence dans un état si violent et en même temps si nouveau pour elle que, rentrée dans sa chambre, elle fondit en larmes. « Mon Dieu !» se disait-elle, « est-ce donc là cet amour dont on préconise tant le charme et après lequel les femmes soupirent si ardemment ? Eh quoi ! Ces hommes, dont l'amitié m'eût été si précieuse, me fuient et m'abandonnent parce qu'ils m'aiment ? Est-ce donc là de l'attachement ? Ne serait-ce pas plutôt l'effet d'un amour-propre blessé ? Le vicomte juge-t-il Sir George loyalement et consciencieusement, ou ne le voit-il qu'au travers de sa jalousie malveillante ? Et Sir George lui-même, que faut-il croire de ses paroles ? Ne sont-elles filles que de son ironie habituelle, ou partent-elles de son cœur ? M'aime-t-il réellement, ou a-t-il faim de m'aimer ? S'il part, reviendra-t-il comme le pense le vicomte ? Clémence passa une nuit très agitée. Le lendemain matin, elle reçut la lettre suivante, écrite en français. Cette lettre, Sir George l'avait écrite la veille au soir, en rentrant chez lui, sous l'impression de dépit et de jalousie, que lui avait causé la visite du vicomte et le refus de Clémence de se soumettre à ses despotiques exigences. Le calme et le flegme habituels de Sir George lui avaient fait défaut, et son caractère orgueilleux et hautain se révélait tout entier dans sa lettre. « Je commence à croire, madame, que les romanciers et les poètes ont inventé l'amour méridional dans le but de créer, pour les cœurs novices, d'amères déceptions, ou peut-être les enchanteresses filles de Libérie, qui nous peignent le poignard à la jarretière, se sont-elles transformées, grâce à la civilisation, en vierges chrétiennes, le rosaire à la main. Vos faveurs sont d'une nature si ascétique, vous les distribuez avec une impartialité, une grâce si parfaite, que nul n'a le droit de se plaindre et que chacun doit vous remercier. Seulement votre candeur de nonne est aussi dangereuse que l'artillerie féminine des coquettes du monde. Dans votre pays, cette terre classique des proverbes, des dictons et des plaisanteries, il y en a un qui dit « Ô César, ô César, tout ou rien !» et dont je vous conjure de faire l'application. J'accepterai tout de vous, hors le rôle de Tantale. Votre confesseur pourra vous assurer que mon exigence est en tout point conforme à l'esprit du plus pur évangile. G. Percy. » À la lecture de cette inconvenante et grossière épître, un tremblement nerveux s'empara de Clémence. Ses oreilles tintaient, ses artères battaient avec violence et elle tomba anéantie sur son canapé. Malgré son extrême indulgence, dont le siège était dans le sentiment de sa dignité, dans la conscience de sa propre valeur, cette lettre, qu'une plume espagnole n'eût jamais osé écrire, blessa cruellement Clémence. Les heures qui suivirent furent les plus cruelles de sa vie. Elle repassa dans son esprit tous ses entretiens avec Sir George. D'une main courageuse, elle souleva le voile qui lui avait caché la perversité de cet homme. Elle analysa, elle pesa tout, avec une impartiale mais ferme volonté. « Non, se dit-elle enfin, en terminant ce cruel examen. Non, après avoir été unie malgré moi au type de tous les vices matériels, je n'irai pas, de ma propre volonté, cédant à un amour que je me reproche comme une faute, unir mon sort à un autre type de tous les vices de l'esprit. » Après cette lutte pénible entre les passions et la raison, la dignité de la femme finit par triompher. Les nobles instincts de Clémence se réveillèrent et sa résolution fut irrévocablement prise. « Oui, mon père, » s'écria-t-elle en prenant une plume. « Oui, vos derniers conseils sont restés gravés dans mon cœur avec votre souvenir. S'il y a lutte, me disiez-vous, fait que la raison triomphe toujours. » Et Clémentia, qui avait recouvré tout son calme, écrivit d'une main ferme les lignes suivantes. « Convaincue de la vérité du proverbe dont vous avez espagnolisé votre lettre, ô César, ô César, tout ou rien, j'opte pour la seconde alternative. Depuis longtemps, c'était chez moi un pressentiment, hier un projet, aujourd'hui un arrêt. » Et, de suite après, Clémentia écrivit cet autre billet. « Paul, je désire te voir. Pourquoi ? Viens si tu veux le savoir. » Lorsque Sir Georges, qui, comme on peut bien le supposer, n'avait pas quitté Séville, apprit par son valet de chambre le départ du vicomte, il regretta vivement d'avoir envoyé à Clémentia cette lettre, écrite dans un de ces moments où le dépit et l'amour-propre blessé dépouillent l'homme de son prestige et le montrent tel qu'il est réellement. Néanmoins, Sir Georges ne soupçonnait pas la gravité de la blessure qu'il avait faite à ce cœur dont il se savait aimé. Il ne comprenait que celles faites à l'amour-propre et il eût voulu effacer de son sang les expressions sarcastiques de vierge chrétienne, de nonne et de rosaire. Il craignait d'avoir froissé les idées religieuses de Clémentia en lui parlant de son confesseur, et pourtant il se rassurait en se disant « Elle-même et la femme qui aime ne sait pas résister aux larmes et aux prières de l'objet aimé. » Pauvre enfant, comme elle sait aimer! Ah, si l'amour, avec ses exigences et sa tyrannie, ne devait pas fatiguer à la longue, quelle belle chose ce serait! Sir Georges accourut chez Clémentia et trouva la porte fermée. Madame était souffrante, lui dit-on, et ne recevait pas. Cette réponse le contraria d'abord, mais à la réflexion, il pensa qu'il valait mieux peut-être laisser passer le premier mouvement de colère. Le soir, à son heure accoutumée, il retourna chez Clémentia et reçut la même réponse. Ce fut pour Sir Georges un grand désappointement. Il rentra chez lui, lut les journaux anglais et finit par s'endormir. Le lendemain matin, on lui remit la lettre de Clémentia. « Enfin, s'écria-t-il, la glace est rompue !» Mais, après avoir lu ce billet, Sir Georges demeura longtemps immobile et pensif. Pas une plainte, pas une larme, pas un mot piquant dans cette lettre. « Je n'y comprends plus rien, se dit-il. Ce sont choses d'Espagne. » Cette lettre lui aura été dictée par son confesseur. Sir Georges ne pouvait rester en place. Il monta à cheval pour tuer le temps. À 2 heures, il se présenta chez Clémentia. Elle était sortie. Feignant d'avoir quelque chose d'important à lui communiquer, il s'informa du lieu où elle pouvait être et on lui dit qu'elle avait été chez sa tante, la marquise de Cortegan. Il s'y rendit. « Tu es toute pâle, disait Constance à sa cousine. « Serais-tu souffrante ?»« Non, répondit celle-ci, mais le visage, comme le ciel, n'a pas toujours le même aspect. « Hélas, mon enfant, dit la marquise, si tu souffrais ce que je souffre !»« Si je pouvais prendre une partie de vos souffrances, ma tante, avec quel plaisir je le ferais !» À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit et Peppino apparut dans toute sa gravité diplomatique. « Il y a là quelqu'un, » dit-il. « Que veut-il ? » demanda Clémentia. « Il réclame un petit bout de conversation. »« Qui est-ce ? » « Le Seigneur Jésus-Christ. »« Quelle stupidité ! » exclama Constance. « Eh bien, ne se nomme-t-il pas ainsi ? » répliqua Peppino, qui avait entendu nommer Sir Georges Monte-Cristo. « Eh non, imbécile ! Ce doit être Sir Georges l'Anglais. » « C'est vous qui l'avez nommé. »« Mère, voulez-vous le recevoir ?»« Non, mon enfant, je me sens trop malade pour recevoir des visites. »« Clémentia, sois assez bonne pour aller au salon à ma place, » dit Constance d'une voix suppliante. « Excuse-moi, cousine, en toute autre circonstance, je serais heureuse de te rendre service. Mais laisse-moi près de ta mère, c'est pour elle que je suis venue. » Constance fit un mouvement involontaire d'impatience qu'elle réprima aussitôt et se leva pour se rendre au salon où Peppino introduisait Sir Georges en lui disant « Passez devant, Sir Georges l'Anglais, et que votre seigneurie ait bien soin d'essuyer ses pieds avant d'entrer. « Votre grâce saura, ajouta Pépine sans être questionnée, que Madame la Marquise est toujours entre le haut et le bas. Les médecins et les apothicaires, le diable puisse-t-il les emporter, coûtent les yeux de la tête. Ils sont forts pour prescrire des remèdes, mais pour guérir, c'est une autre paire de manches. » La conversation entre Sir George et Constance ne pouvait être que languissante. Après s'être informée avec intérêt des nouvelles de la marquise, après avoir parlé de la pluie et du beau temps, la conversation tomba brusquement. Au bout d'un moment, Sir George, voyant l'inutilité de sa tentative pour parler à Clémentia, leva le siège. « Je ne veux pas, dit-il, abuser de votre temps en vous retenant loin de votre chère malade. » « En effet, répliqua Constance, il a fallu tout le plaisir que j'éprouve à vous remercier des marques d'intérêt que vous voulez bien donner à ma mère pour me séparer d'elle. » Sir George salua et partit. Il retourna chez lui dans un état d'agitation qui tenait de la colère, de la crainte et de la douleur. Il écrivit à Clémentia une lettre triste et passionnée où l'on voyait des traces de larmes. Il lui exprimait son repentir et la supplier de lui pardonner les mots offensants, échappés à sa plume dans un moment de dépit jaloux. Clémence a lu la lettre, mais Sir George avait perdu son prestige. L'idole qu'elle avait adorée était tombée de son piédestal. Les expressions de cette lettre parurent à la jeune femme fausses et affectées, le style prétentieux. Le bandeau était tombé. Clémence ne répondit pas. Le lendemain, nouvelle lettre, plus simple, plus sincère, et par cela même plus éloquente. Clémentia la renvoya sans l'ouvrir. Ce refus jeta Sir George dans un profond abattement, non pas que, dans ce cœur consumé, fût réellement éveillée une passion bien sentie pour Clémentia, non, cela n'était pas possible, la cendre ne peut produire la flamme. Mais cet homme, pour qui la vie avait perdu tous ses prestiges, avait rencontré chez la jeune femme le seul être capable, par sa grâce à la fois piquante et enfantine, par sa candeur, par l'intelligence de son esprit supérieur, de l'occuper, de l'amuser, enfin d'arriver à un miracle qu'aucune autre femme n'aurait pu accomplir, celui de remplir ce cœur si vide et si désillusionné. Étrange anomalie, le charme qui l'attirait vers Clémentia, le désir d'obtenir son pardon, poussèrent le sceptique, le positif, le hautain insulaire à jouer le rôle d'un héros de roman. Il rôdait chaque soir sous les fenêtres de Clémentia, il lui écrivait lettre sur lettre et fut jusqu'à feindre une maladie. Peine perdue, tout vint se briser contre la résolution inébranlable que le bon sens et le sentiment du devoir avaient inspirée à Clémentia. Sir George se faisait illusion ou voulait se le faire en attribuant à la passion les extrémités auxquelles il se portait. Il mettait anxieusement la main sur son cœur pour en compter les pulsations, mais hélas, c'était vainement. Le ressort de cette belle montre était cassé, tout ce qu'il essayait pour lui rendre le mouvement était en pure perte, il ne pouvait s'y tromper et il finit par rire de lui-même. Alors, Sir George tomba dans un de ces accès de spleen qui le rendait le plus malheureux des hommes et dont Clémentia seule aurait pu le tirer par le charme de sa parole, comme autrefois David ravissait Saül par les sons enchanteurs de sa harpe mélodieuse.